Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré à la Chine, un an après le début de la crise de la Covid-19. À l'ordre du jour ce soir, un an de coronavirus, la Chine sort-elle plus forte de la crise? Tandis que le gouvernement britannique affiche sa satisfaction d'être le premier des États occidentaux à lancer demain la vaccination de masse contre le coronavirus, la Chine a déjà débuté cette même campagne de vaccination depuis plusieurs mois. Car le pays qui a vu naître, même s'il le conteste, cette nouvelle pandémie, veut montrer au monde qu'il est parvenu à la maîtriser bien avant tout le monde et à avoir des prévisions de croissance positive en cette fin d'année terrible. Une bataille de récits, comme l'a dit avant l'été la Commission européenne par la bouche de Josep Borrell, mais aussi une stratégie politique destinée à montrer la puissance de l'organisation centralisée de Pékin, mise à mal pourtant dans les premiers mois par ce nouveau virus. Nous en discuterons avec nos trois invités, avec Antoine Mondaz. Bonsoir Antoine Mondaz.
Bonsoir.
Vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous dirigez le programme Taïwan sur la sécurité et la diplomatie. Et vos recherches portent principalement sur la politique étrangère et de sécurité de la Chine et des deux Corées. Avec nous également, depuis Princeton où elle enseigne, Nadège Roland. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse sur les questions politiques et de sécurité en Asie-Pacifique au National Bureau of Asian Research. Et avec nous, enfin, en studio, Madame Shulian Li, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes consultante indépendante sur les relations franco-chinoises et vous avez publié chez Erol en 2014 un livre qui s'intitule « Réussir sur le marché chinois ».
Tout à fait.
8h du matin et moins 3 degrés dans la grande banlieue sud-est de Pékin. Une centaine de personnes, surtout des hommes, quelques femmes, patientent dans le froid devant l'un des bâtiments de Sinopharm, fabricant leader de vaccins en Chine. Le groupe développe deux vaccins anti-Covid en phase 3. Un homme d'une trentaine d'années scanne le QR code, le gardien vérifie son identité. C'est son entreprise qui l'envoie avant de partir sur un des chantiers des routes de la soie, ce vaste plan de route commerciale voulu par Xi Jinping. L'homme ne veut pas donner son nom.
Je suis indonésien.
Je vais en Indonésie. Mon entreprise a un contrat avec une mine de nickel. Comme la pandémie à l'étranger est grave, notre entreprise a demandé aux employés de revenir en Chine pour se faire vacciner. Et on pourra repartir après.
Vacciner avec un vaccin pas encore homologué, la méthode n'est pas vraiment orthodoxe. Il faut que les Chinois soient sûrs de leur coût pour vacciner comme ils le font, confie un médecin occidental à Pékin. Sinopharm vient de déposer une demande de commercialisation dans la compétition effrénée pour le vaccin. La Chine veut être en tête.
Voilà un reportage de la correspondante de Radio France à Pékin, Dominique André. C'était la semaine dernière, le 1er décembre, et il rassemble ce reportage beaucoup des éléments qui vont nous permettre de discuter justement de cette bataille de récits, de cette façon dont la Chine se présente comme vainqueur, désormais de ce long combat contre le coronavirus, en compagnie de nos trois invités. Cette campagne de vaccination a commencé il y a longtemps, Antoine Mondaz?
Alors effectivement, puisque une procédure d'urgence avait été autorisée pour certains vaccins qui ont pu être administrés dès le mois de juillet en Chine. On se rappelle notamment des images un peu plus récentes au mois de septembre et d'octobre dans la province, si je ne me trompe pas, du Zhejiang, qui avait décidé au niveau local de vacciner toutes les personnes qui souhaitaient être vaccinées. Mais ce qui est très important à mes yeux sur cette question du vaccin, c'est qu'il y a entre guillemets deux courses dans cette fameuse course au vaccin. Il y a à la fois un sprint, c'est-à-dire quels seront les premiers pays à mettre au point des vaccins. Et là, clairement, la Chine est partie en tête à l'époque, puisqu'elle avait été, dès le mois de janvier, dès le mois de février, l'un des premiers pays à mener des recherches. Et elle sera parmi les premiers pays, très clairement, à mettre au point des vaccins. Et puis, il y a d'une autre course, si je peux dire, une course d'endurance, une course de fond. Et là, c'est avant tout qui seront les pays qui pourront exporter des vaccins à quel pays. Et là, la Chine est également en très bonne position puisque ses capacités industrielles vont lui permettre d'exporter massivement et couplé évidemment avec le fait que la situation sanitaire soit bien meilleure en Chine qu'en Europe. L'urgence, entre guillemets, de vacciner la population chinoise est bien moindre que celle de vacciner la population européenne et américaine. Et ça, évidemment, ça donne un avantage à la Chine dans la compétition internationale pour l'accès, entre guillemets, aux vaccins.
Oui, parce qu'il ne s'agit pas, Chun Yanli, de penser simplement à la réussite sur le marché chinois, mais aussi sur les marchés étrangers et la façon dont la Chine se présente au reste du monde. Vous qui travaillez en tant que consultante sur les relations franco-chinoises, c'est vrai que, d'une certaine façon, la Chine aujourd'hui envisage, par exemple, pour cette question du vaccin, le monde entier comme étant un marché potentiel.
Oui, c'est un marché potentiel, mais en même temps, je pense aussi que qu'à l'intérieur du pays, il y a aussi beaucoup de besoins parce qu'aujourd'hui, la Chine reste toujours très vigilante, surtout sur des cas de coronavirus importés en guillemets. Donc, pour vraiment réduire le risque, je pense que la Chine va d'abord penser à faire vacciner son peuple. Après, bien sûr, le marché international, il y a toujours un potentiel.
Ce qui est fort intéressant, Nadège Roland, c'est d'imaginer effectivement que tout cela est fondé sur des statistiques, sur des chiffres. Quand on lit la documentation qui nous permet de préparer cette émission, qui était rassemblée par Fanny Richer pour le temps du débat, eh bien, on se dit il y a beaucoup de doutes sur ces chiffres, un peu comme à d'autres périodes, on a pu douter des chiffres de la Russie soviétique lorsqu'il s'agissait des chiffres de productivité, de croissance, etc., etc. Pourquoi y a-t-il ces doutes sur ces chiffres? Pourquoi ces chiffres ne sont-ils pas fiables? Et pourtant, on s'appuie dessus pour pouvoir imaginer les perspectives de croissance, par exemple, Nadège Roland.
Oui, les statistiques chinoises sont toujours un petit peu compliquées, ne sont pas extrêmement transparentes, en fait, parce que le parti État contrôle la plupart des institutions, enfin toutes les institutions, y compris celles qui délivrent ces statistiques. Donc, on peut... Il est souvent difficile de les prendre pour argent comptant. Il faut faire attention à ça. Bon, alors après, il y a des statistiques qui sont des projections du FMI, hein, qui sont plus sérieuses, disons, qu'on peut prendre un peu plus à la lettre, qui estiment que la Chine va avoir une croissance de 2% l'année prochaine. Donc, en comparaison avec d'autres économies qui vont être en récession, donc on peut se baser là-dessus de façon plus fiable, à mon avis, que celles qui sont données par Pékin, qui a toujours tendance en fait à dire un petit peu, à faire dire ce qu'elle veut aux chiffres.
Oui, et d'ailleurs, il faut peut-être se replonger dans l'ambiance d'il y a un peu moins d'un an. Nous étions en janvier dernier, toujours Dominique André, correspondante de Radio France. Elle se trouvait évidemment à Wuhan. Ça n'était pas tout à fait la même ambiance euphorique que l'on a pu entendre à propos de cette vaccination la semaine dernière.
Depuis 10 heures ce matin, Wuhan est coupé du monde. Les 11 millions d'habitants sont isolés dans la ville. Il est interdit d'en sortir, sauf dérogation spéciale. Tous les transports sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Pas d'avion, pas de train. Pareil pour les bus, le métro et les autobus et le bac qui traverse le fleuve Yangtze. Dès l'annonce faite par le présentateur de la télévision d'État CCTV, des habitants se sont précipités dans leur voiture pour quitter la ville. Et ce matin tôt, les avions et les trains ont été pris d'assaut. Dans la gare de l'Ouest, à Pékin, qui dessert Wuhan, une équipe spéciale est mise en place pour rembourser les billets. À l'occasion du nouvel an lunaire, des centaines de millions de Chinois voyagent, mais Wuhan est désormais fermé. Cette décision exceptionnelle vise à bloquer la propagation du virus, mais a aussi une valeur politique. Le gouvernement chinois veut montrer qu'il maîtrise la situation.
Chun Yanli, à cette même période, c'était en janvier dernier, vous étiez à Shanghai, vous, c'est ça?
Oui, en fait, je suis passée par Shanghai, je suis retournée en Chine. Et le lendemain de mon arrivée en Chine, j'ai appris que le virus était transmissible. Donc, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup surprise. J'ai anticipé aussi mon retour à Paris. Et je me suis mis en quarantaine pendant 2 semaines pour être prudent. Mais à partir de ce moment-là, j'ai quand même pu constater quelques différences dans la gestion du coronavirus.
Ah bah c'est sûr qu'en janvier dernier, à Paris, il ne devait pas y avoir beaucoup de gestion du coronavirus.
Oui, effectivement, quand j'ai pris l'avion à Shanghai, parce que je devais partir de ma ville natale jusqu'à Shanghai sur l'autoroute, je me suis fait tester ma température 2 à 3 fois à l'aéroport aussi. Il y a eu à la radio, on rappelait aux gens de se laver les mains, etc. Tout le monde portait le masque. Et puis quand je suis arrivée à l'aéroport de Charles de Gaulle, il y avait juste une annonce attachée sur une fenêtre. Donc du coup, j'ai vu qu'à l'époque, effectivement, la perception du virus était très différente.
Oui, alors évidemment, quand on repart un an en arrière, Antoine Bondaz, on est un peu surpris parce que c'est la rapidité de ce règlement de crise que met en avant le gouvernement de Pékin pour dire, regardez, il y a un an, on a mis en place des mesures très rapides pour pouvoir justement contrôler la circulation du virus et cela nous a réussi, les autres pays ne l'ont pas fait.
Alors, je dirais rapidité relative. Effectivement, du moment où l'épidémie a été annoncée à la population le 20 janvier à travers ce fameux discours de Xi Jinping et que les décisions majeures ont été prises, notamment le lockdown de Wuhan le 23 janvier, là, évidemment, les mesures ont été prises et ont eu un impact relativement rapide puisque dès la fin du mois de février, entre guillemets, cette flambée épidémique avait été contenue. Aujourd'hui, pour donner juste un ordre de grandeur, officiellement en Chine, il y a eu moins de 85 000 cas. C'est-à-dire l'équivalent aux États-Unis du seul état du Dakota du Sud. Sauf que le Dakota du Sud, c'est 800 000 habitants, un peu plus de 800 000 habitants. En Chine, vous en avez 1,4 milliard.
Et officiellement, et donc, moins de 5 000 morts, c'est cela?
Exactement, moins de 5 000 morts quand aujourd'hui aux États-Unis, vous avez un peu moins de 300 000 morts. Donc évidemment, sur le papier, la Chine a contenu l'épidémie et c'est un fait. La question de la rapidité, elle se pose puisque c'est justement la nature du système politique chinois qui, dans les premières semaines, c'est-à-dire au mois de décembre, au début du mois de janvier, a pu conduire les autorités chinoises à retarder la prise de certaines décisions, à retarder l'officialisation de certaines informations, notamment la transmission interhumaine, puisque aujourd'hui, quand avec un peu de recul, on regarde les nombreux cas qu'il y avait dès le mois de décembre et au début du mois de janvier à Wuhan, il était à l'époque déjà assez clair qu'il y avait des cas de transmission interhumaine.
Et c'est alors le cas d'ailleurs de l'enquête parue la semaine dernière, le 1er décembre, sur CNN et sur le Wall Street Journal, expliquant effectivement qu'il y avait un nombre très important de cas autour de Wuhan, par exemple, de grippe, ce qu'on pensait être une grippe, et c'était 20 fois plus nombreux que l'année précédente. Donc on peut se douter peut-être aussi qu'il y avait des cas de circulation qui n'étaient pas détectés comme étant des cas de ce nouveau coronavirus.
Exactement, et puis des affaires de corruption entre le centre de contrôle des maladies en Chine et certaines entreprises à Shanghai et autres ont eu un impact. Alors ça n'excuse en rien, évidemment, le manque de préparation des régimes politiques, que ce soit des systèmes de santé en Europe ou aux États-Unis. Ça n'excuse en rien les chiffres extrêmement mauvais en Europe, mais en tout cas, il faut quand même relativiser, entre guillemets, cette exemplarité chinoise qui est aujourd'hui ce qui est mis en avant dans les médias chinois. La Chine se présente comme la première victime, mais aussi comme, entre guillemets, le principal pays à avoir réussi à gérer l'épidémie, avec un argument qu'on entend de plus en plus en Chine, qui est de dire, d'un côté, en Europe, vous mettez en avant les droits de l'homme, mais vous n'êtes pas capable de protéger les gens. Nous les avons protégés. Or, là-dessus, il faut rappeler quelque chose d'extrêmement important. Certains pays ont été capables à la fois de concilier protection des droits humains et des libertés fondamentales et gestion de l'épidémie. Et c'est le cas de la Corée du Sud, du Japon, de Taïwan, de la Nouvelle-Zélande et d'autres pays.
Oui, Nadège Roland, une autre question aussi qui est importante dans la façon dont on envisage peut-être du point de vue du pouvoir central chinois la résolution de cette crise, c'est la question des régions et du pouvoir central, justement, parce qu'on met sur le compte d'une mauvaise gestion régionale, en partie, le fait que, justement, le pouvoir n'ait pas pris en compte assez rapidement les premiers cas pour pouvoir avoir du retard à l'allumage dans la résolution de la crise. Nadège Roland.
Oui, en fait, ça fait partie de la tactique du gouvernement central pour essayer de dévier la faute, non pas sur soi-même, mais sur les gouvernements locaux. C'est quelque chose qui arrive très très fréquemment pour éviter que les mécontentements ne remontent directement à Pékin. En fait, ce qu'on entend depuis tout à l'heure de notre discussion, c'est vraiment que cette épidémie, en fait, n'est pas seulement considérée comme une crise sanitaire, mais potentiellement une crise politique. C'est ça le souci principal du point de vue du bureau politique du Parti communiste chinois. Donc, à partir du moment où vous le gardez en tête, que c'est une crise potentiellement politique, vous pouvez voir qu'en fait, le gouvernement central essaye par tous les moyens de faire en sorte que la faute repose soit sur une mauvaise gestion du gouvernement local, soit sur de soi-disant début d'épidémie à l'extérieur de la Chine. Au cours des dernières semaines, on a eu, soit ça vient des États-Unis, ça vient de l'Inde. Aujourd'hui, je ne sais plus, il y a une nouvelle théorie qui est sortie encore aujourd'hui. Enfin, tous les jours, on a un foyer soi-disant
extérieur.
Nouveau extérieur. Donc ça fait partie de cette volonté du gouvernement chinois de faire reposer la responsabilité sur les autres.
Et pourtant, Chu Lianli, il y a une difficulté, c'est que malgré cette réussite rapide à contrevenir à cette épidémie, eh bien, l'image de la Chine à l'extérieur a été puissamment dégradée pendant cette année qui s'est déroulée. C'est assez étrange parce qu'on pourrait se dire, ben voilà, une image positive d'un pays qui a réagi, même tardivement, mais qui a réussi à contrôler l'épidémie. Et malgré tout, l'image de la Chine a été très sérieusement abîmée pendant cette année.
Je pense que qu'il y a différentes raisons. Une raison qui est assez importante à mes yeux, c'est qu'on fait l'amalgame entre différents sujets quand on parle de la Chine. Pour moi, par exemple, la santé, c'est aussi un sujet universel. Pourtant, quand on regarde la Chine de l'Occident, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, qu'on parle le plus souvent des différences idéologiques. Et du coup, par exemple, en Chine, quand on demande aux gens de porter un masque, quand les mesures ont été très strictes pendant plusieurs mois, il y a eu pas mal de critiques en Occident en disant que en Chine, on atteint la liberté personnelle, etc. Pour moi, à la fin, c'est aussi un sujet lié à la santé. Donc, d'ailleurs, dans la culture chinoise, il y a un esprit communautaire qui est assez fort. C'est-à-dire que les gens aussi sont prêts à se sacrifier en guillemets pendant une période afin de pouvoir trouver la vie normale le plus rapidement possible. Donc en France, par exemple, il y a eu beaucoup de discussions sur le port du masque, sur le confinement, sur les différentes mesures, etc. Et ça a pris du temps. Du coup, les gens partent dans différents sens. Et c'est plus difficile, du coup, de mettre des mesures pour contrôler le plus rapidement l'épidémie.
Et pourtant, il y a eu un moment où il y a eu, disons, des contestations de la politique voulue. C'était au moment de la disparition du docteur Li. On écoute, c'était le reportage de Dominique André le 7 février dernier.
Adieu docteur Li, ce message écrit dans la neige fait le tour des réseaux sociaux ce matin avec toutes les autres photos. On peut voir le docteur Li Wenliang sur son lit d'hôpital et aussi des murs de photos de jeunes chinois brandissant des pancartes avec ces mots « Je refuse de vivre sans comprendre ». La mère du jeune médecin, décédé cette nuit du coronavirus et qui a déjà été incinéré, vient de parler sur les réseaux sociaux chinois.
Merci de votre préoccupation pour les soutiens de tous les secteurs de la société. Nous avons attrapé aussi cette pneumonie. Nous venons de sortir de l'hôpital, moi et mon mari. Nous sommes guéris. C'est terrible que notre fils soit parti. Il avait 34 ans. C'était un médecin de talent qui avait beaucoup de potentiel. Il ne savait pas mentir. Il était dévoué.
La mort du jeune médecin de 34 ans, considéré comme un héros national par l'opinion publique, a pris une dimension politique. Le régime a annoncé l'envoi d'une équipe d'experts à Wuhan pour enquêter sur les circonstances de la mort du docteur Li, telle que rapportée par les masses, peut-on lire dans le communiqué. Des officiels locaux avaient été sanctionnés il y a quelques jours. Le gouvernement fait face à un flot de colère aujourd'hui.
On a l'impression que c'était il y a un siècle, c'était le 7 février dernier, Dominique André rapportant la mort du docteur Li Wenliang, qui a été un lanceur d'alerte justement sur cette crise du coronavirus en Chine. On peut dire, Antoine Mondas, qu'on est très loin de ce moment-là et que aussi ceux qui ont lancé l'alerte, pour l'instant, n'ont pas un avenir aussi brillant peut-être que les autres qui ont suivi cette épidémie parce qu'ils ont été poursuivis par le pouvoir central.
Alors, ce qui est sûr, c'est que la nature du système politique chinois a conduit, entre guillemets, à un retard à l'allumage. Et on l'a bien vu avec ce qui est documenté désormais à la fin du mois de décembre, quand certains médecins, et même avant Li Wenliang, ont essayé de faire remonter l'information. Là, ce sont les autorités politiques, que ce soit au niveau des hôpitaux ou au niveau de la ville, qui ont, entre guillemets, filtré la remontée de l'information. Là où le cas de Li Wenliang est extrêmement intéressant, c'est que les autorités chinoises ont bel et bien compris qu'il y avait une menace, justement, de faire de Li Wenliang un martyr et d'utiliser, entre guillemets, ce martyr contre les autorités centrales. Elles ont donc décidé, entre guillemets, d'intégrer Li Wenliang au propre récit national chinois, d'en faire un martyr, non pas, entre guillemets, de la pandémie, mais de la lutte contre la pandémie de la part du Parti communiste chinois. Et Li Wenliang, qui pouvait, grosso modo, être présenté comme une faiblesse pour les autorités chinoises, en est ressorti, entre guillemets, comme un symbole de la prise en compte par le parti de l'importance des équipes soignantes, des personnels soignants, etc. Ce qui est très clair, c'est qu'on a bien vu qu'à la fin du mois de janvier, il y a eu des hésitations au niveau des autorités centrales, que beaucoup de gens ont commencé à s'exprimer sur les réseaux sociaux, qu'il y a eu ce mécontentement dont Dominique André parlait. Et à l'époque, on parlait beaucoup à l'étranger d'un potentiel, entre guillemets, effet de Tchernobyl, c'est-à-dire un effet politique considérable du fait d'un incident, pour le coup, sanitaire et non pas d'une catastrophe nucléaire. Mais là où les autorités chinoises se sont, entre guillemets, ressaisies, entre guillemets, c'est que dès le début du mois de février, et c'est assez bien documenté aussi, puisque nous avons les décisions au sein du comité central du parti, c'est qu'il y a une reprise en main du flot et du flux d'informations. C'est-à-dire à travers la censure, la destruction d'informations, c'est-à-dire la propagande, la création de contenu, il y a eu, entre guillemets, un serrage de vis. Et là, clairement, les autorités centrales ont repris en main leur communication, ont repris en main le flux d'informations et, entre guillemets, ont réussi à sortir par le haut sur le plan politique de cette crise, très clairement.
Shu Nianli.
Oui, c'est vrai que le décès du docteur Li Wenliang a été un incident qui a marqué beaucoup l'esprit des Chinois, surtout à l'époque. Et je me souviens aussi que cette nuit-là, il y a eu beaucoup de colère sur les réseaux sociaux chinois. C'était jamais de ma vie j'ai vu autant de colère. Et après, je pense que le gouvernement a très bien compris cette colère. Elle a été prise en compte.
C'est la fameuse correction de la ligne du gouvernement.
Oui, parce qu'il ne pouvait pas ignorer cette colère. Vraiment, j'ai été presque étonnée par tant de colère sur les réseaux sociaux chinois. Et donc, c'était une des raisons pour lesquelles que les mesures ont été assez rapides dans la deuxième phase. Et depuis, l'esprit a évolué en Chine, comme le gouvernement a appliqué des mesures assez strictes dans la deuxième phase. Et que finalement, on peut dire qu'aujourd'hui, la situation a été bien contrôlée. Je pense que les gens aujourd'hui, ils sont plutôt satisfaits en fait de la deuxième phase pour la gestion du coronavirus.
Nadège Roland, depuis Princeton où vous travaillez en tant que chercheuse sur les questions politiques de sécurité en Asie-Pacifique, c'est un vrai retournement, pourrait-on dire, cette histoire de comme un jeu de bonneteau, comme quand on voit les gens jouer au bonneteau, c'est là, c'est pas là, et puis d'un seul coup, on découvre que il y a une nouvelle façon de voir le monde et de voir la crise depuis la Chine, mais aussi depuis l'extérieur. On se dit, ben voilà, ils ont réussi à renverser la vapeur et à changer la donne, au point que la croissance va être annoncée comme étant exceptionnelle, vous le disiez tout à l'heure, de 2% ou 1,8% selon l'OCDE, tandis que tous les autres pays du monde vont subir une baisse de cette croissance, une décroissance pendant cette année 2020, voire l'année 2021.
Oui, effectivement, c'est la reprise de l'économie chinoise a été assez spectaculaire, justement du fait de ce pardon, je pense en anglais, donc c'est un petit peu compliqué. de ces restrictions énormes des contaminations en fait en Chine.
Et puis du redémarrage précoce des industries.
Voilà, donc le redémarrage économique effectivement assez précoce du fait de gens qui sont moins malades. Par contre, il y a des chiffres qu'on n'a pas encore, qui sont ceux du chômage en Chine et notamment ceux d'une portion de la population qui sont ces travailleurs migrants qui au début de la pandémie ont été gentiment priés de rentrer chez eux dans les campagnes et qui ne sont pas encore revenus dans les villes. Donc il y a une grande partie de la population dont on ne sait pas en fait s'ils vont pouvoir y arriver financièrement, hein. C'est assez dramatique. Et puis la relance de l'économie, elle se fait aussi beaucoup par la production en masse, mais en fait ça va créer des problèmes futurs parce que la relance de la consommation intérieure est très très faible. D'une part, les ménages ne consomment pas encore au niveau de l'année dernière, et d'autre part, cette production se fait par des exportations aussi, et du coup ça va créer des
distorsions
de plus en plus importantes, oui, à l'avenir avec les marchés extérieurs. Donc une victoire peut-être à la Pyrrhus, c'est-à-dire une victoire de court terme, à voir sur le long terme si effectivement on peut se stabiliser de cette façon.
Il est 18h44 sur France Culture, vous écoutez le temps du débat.
Du haut de ses 2000 ans d'histoire, la tour de la grue jaune domine Wuhan et le fleuve Yangtze, le plus long fleuve d'Asie. Wuhan, épicentre de l'épidémie, est aujourd'hui envahi de touristes venus de toute la Chine. Zhang Meng est la responsable du site.
Nous avons 40% de visiteurs de plus que l'année dernière. Il y a actuellement 15 000 personnes par jour en moyenne. Comme nous sommes toujours dans le cadre de la lutte contre l'épidémie, nous avons seulement une jauge de 50% par rapport à d'habitude. C'est toujours plein.
Wuhan est dans la province du Roubaix. Plus de 400 sites touristiques sont ainsi accessibles gratuitement. Symbole d'une Chine qui a tourné la page de l'épidémie.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Un reportage du 7 octobre dernier, toujours dans cette ville de Wuhan. Mais là, c'est la renaissance de la ville. Un reportage de Stéphane Pombrin. Pour France Inter, vous écoutez ce temps du débat consacré justement à la Chine. A-t-elle tiré les marrons du feu de cette crise du coronavirus qui a débuté il y a un an? Nous sommes en compagnie de trois invités. De Shun Yan Li, qui est avec nous, consultante indépendante sur les relations franco-chinoises et autrice de Réussir sur le marché chinois. Nadège Roland, depuis Princeton, qui est chercheuse sur les questions politiques et sécurité en Asie-Pacifique, et Antoine Bondaz, chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous qui travaillez sur ces questions de relations de la Chine avec ses voisins et ses voisines, est-ce qu'on peut dire que, il y a une discussion qui est née justement vis-à-vis des autres pays d'Asie ou de l'Asie-Pacifique, étant donné cette victoire de la Chine sur le coronavirus, Antoine Bondaz?
Alors, pour être très clair, je ne dirais pas qu'il y a de nouvelles tendances avec la pandémie de la Covid-19. La pandémie, elle a avant tout révélé et catalysé des tendances qui préexistaient, c'est-à-dire l'inquiétude vis-à-vis de certains développements en Chine, notamment des capacités militaires de la Chine, l'inquiétude vis-à-vis d'une dépendance qui, pour certains pays, est devenue une vulnérabilité considérable. On peut prendre, par exemple, le cas récent de l'Australie, qui aujourd'hui dépend majoritairement de l'économie
38%
chinoise.
De ses exportations sont à destination de la Chine, et étant donné qu'ils ont fait quelques critiques vis-à-vis de la gestion par le gouvernement chinois de tout cela, eh bien ils sont dans une situation difficile visiblement. Ils sont la cible d'une diplomatie assez agressive de la part de Pékin.
Exactement, quasiment 40% des exportations, vous l'avez rappelé, et 70 milliards de surplus commerciaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie australienne, bien plus qu'il y a 10 ans, est extrêmement dépendante de l'économie chinoise.
Sans compter les milliers d'étudiants chinois qui viennent étudier l'anglais en Australie.
Exactement, également sur le plan immobilier, puisqu'il y a de nombreux achats immobiliers, également en partie le tourisme, etc. Ce qui fait que certains secteurs de l'économie australienne, on le voit par exemple sur le vin, mais un autre exemple très précis, par exemple l'industrie de la langouste et du homard dépend à 90% des exportations vers le marché chinois. Et donc, toutes ces prises en compte désormais de la puissance de la Chine, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, qu'elle soit militaire, évidemment, la crise de la Covid-19 l'a accélérée. Et on l'a vu également en Europe. C'est-à-dire que les discussions en Europe sur la relation à avoir avec la Chine ne datent pas du début de l'année. Cela date au moins d'il y a quelques années. Et en fait, la pandémie a, on peut dire, accélérer ce processus de prise de conscience. Alors, ça ne veut en aucun cas dire que de la part de ces pays ou de l'Europe, il y a désormais un changement à 180 degrés de la politique et où on chercherait à faire de la Chine un ennemi. Mais en tout cas, il y a la prise en compte, entre guillemets, de cette nouvelle réalité et de la nécessité soit d'être moins dépendant dans certains domaines, notamment dans des domaines qui sont quasi considérés aujourd'hui comme stratégiques. Alors, on l'a vu dans les télécommunications.
Sur la 5G en particulier.
Sur le plan, exactement, mais c'est aussi sur le plan sanitaire, c'est aussi sur d'autres plans. Et puis la nécessité, encore une fois, de prendre en compte ces nouvelles capacités de la Chine. Et ça, on le voit par exemple dans le dernier rapport de l'OTAN, qui ne fait pas, faut être très clair, de la Chine une menace, mais qui indique bien qu'il faut prendre conscience et prendre en compte ces nouveaux développements en Chine et ces nouvelles capacités chinoises.
Oui, et il faut dire effectivement que le discours assez ferme du représentant des affaires étrangères de l'Union européenne, c'était donc Joseph Borrell avant cet été, qui disait il y a une guerre des récits entre la Chine et l'Europe, nous ne racontons pas la même histoire. Ça n'est pas simplement une guerre des récits, Shun Yan Li, c'est aussi une guerre commerciale, une guerre politique.
Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on aime bien utiliser le terme guerre. Voilà, pour désigner la relation entre la Chine et c'est un pays occidental. Moi, je trouve que c'est très dommage.
Exagéré, vous pensez?
On a toujours des différences. On peut pas ignorer les différences, mais vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit chercher la terre, chercher un terrain d'entente tout en gardant les différences. Je pense que c'est tout à fait possible, en fait, de continuer de collaborer, au moins sur le plan économique ou sanitaire, malgré des différences idéologiques ou des différences du régime politique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le coronavirus, pour moi, ce n'est plus un simple incident sanitaire. Ça devient aussi un incident politique ou géopolitique. Uh-huh. Vous avez mentionné tout à l'heure que l'image de la Chine s'est dégradée depuis plusieurs mois. C'est tout à fait vrai. Et je pense que la Chine, aujourd'hui, elle envisage une situation beaucoup plus compliquée sur le plan international et les raisons sont mutuelles. Moi, je pense aussi que la Chine, de son côté, doit améliorer sa façon de communiquer, par exemple. Et du côté occidental, je pense qu'on ne doit pas se focaliser trop souvent sur les différences. Et on peut tout à fait chercher des points communs, des intérêts communs, parce qu'on a besoin de tout le monde pour sortir de cette crise.
Oui, sur ce point, Nadège Roland, question de communication, il y a cette communication de la diplomatie chinoise, en particulier de certains ambassadeurs ou de responsables de politique étrangère à Pékin, qui sont surnommés les loups guerriers. C'est tout de même un peu une façon de les surnommer, qui montre un peu l'agressivité possible, justement, de ces loups guerriers. C'est important, justement, que d'avoir ce discours vers l'extérieur, qui est un discours assez ferme. On a vu plusieurs fois des pays être choqués de la virulence des attaques contre eux par ces diplomates.
Oui, alors il y a plusieurs choses, en fait, dans cette question-là. Encore une fois, revenons à ce qui est important du point de vue des autorités politiques de Pékin. C'est une crise sanitaire sans précédent, hein, c'est ce que Xi Jinping a dit au début, une crise qui n'a jamais été aussi importante depuis la fondation de la République populaire de Chine, donc c'est quand même du point de vue des autorités chinoises quelque chose d'extrêmement extrêmement sérieux. Dans cette crise sans précédent, il faut aussi que le parti montre qu'il est capable, qu'il est en mesure et qu'il est compétent, qu'il est en mesure d'y faire face, de résoudre cette crise, et qu'il est compétent.
C'est et de mettre en œuvre les décisions qui sont prises, quoi.
Pour sa légitimité, c'est extrêmement important. Ouais. Xi Jinping lui-même, dès février, il me semble, il a fait un discours assez important dans lequel il a utilisé la première personne pour dire qu'il avait été lui-même très impliqué dans la gestion de cette crise. Donc, il y a encore une fois, l'homme au pouvoir a besoin de démontrer cette capacité
de personnaliser,
de personnaliser. Mais du coup, c'est assez dangereux parce qu'il personnalise. Donc, du coup, il faut que tout le pays soit mobilisé derrière pour faire en sorte que ce soit en effet un succès. Quand en fait la communauté internationale a commencé à dire mais attendez, vous avez quand même pas bien géré au départ, vous n'avez pas pris les mesures nécessaires, vous avez été trop lent pour développer, enfin pour le faire valoir sur le reste du monde, etc. La Chine s'est sentie victime en fait et critiquée, et donc le parti ne peut pas accepter cette critique internationale. Elle doit, et ses diplomates en particulier, doivent donc montrer et démontrer au régime qu'ils sont prêts à se mettre debout et à s'opposer à ces critiques internationales. Donc une partie des raisons pour lesquelles on voit ces
prises de position,
guerriers, ces prises de position extrêmement agressives qui parfois diffusent aussi des théories du complot complètement aberrantes, c'est aussi par rapport à ça. Il faut qu'ils se positionnent pour défendre l'honneur du pays et
ça l'honneur de leurs dirigeants. Ça a été le cas en Australie, par exemple, puisqu'on parlait du cas australien.
Oui, alors le cas australien est très intéressant de ce point de vue-là, parce que l'Australie a été un des premiers pays à demander à ce qu'il y ait une enquête internationale autonome, indépendante, qui soit faite sur l'origine du coronavirus. À partir de ce moment-là, en fait, ça a été une descente aux enfers pour l'Australie, avec menaces et passage à l'acte de la part de Pékin, oui, sur l'embargo, sur certains...
Une façon de prévenir le reste du monde de ne pas s'attaquer à ce genre de questions. Antoine Bondaz, il y a une question intéressante, c'est qu'on aurait tendance à centrer cette discussion sur la politique internationale à la sortie du coronavirus entre les États-Unis, l'Europe et la Chine, mais on oublie qu'il y a une grande partie du monde qui est concernée aussi. Ce sont des pays qu'on appelait dans le temps les pays du tiers-monde, en particulier les pays d'Afrique, et que cette diplomatie du vaccin va aussi se porter sur ces pays-là, tout de même, Antoine Bondaz.
Alors ça c'est clair, et ce sont les objectifs affichés par la Chine déjà depuis de nombreuses années. La diplomatie sanitaire en tant que telle de la Chine, elle commence il y a très longtemps, elle commence au début des années 60, notamment en Algérie en 1963. Et puis elle s'est accélérée ces dernières années, que ce soit à travers la crise Ebola en Afrique de l'Est en 2014-2015, et puis désormais avec la pandémie de la Covid-19. La Chine a été très active, que ce soit le gouvernement chinois qui a très largement communiqué, mais aussi, et ça c'est assez nouveau, les entreprises et les fondations d'entreprises. Par exemple, la fondation Jack Ma, reliée à Alibaba.
Alibaba,
par exemple, fournit.
Oui.
Exactement, qui est le géant du commerce en ligne en Chine, a fourni à l'ensemble des 52 pays africains des masques, des kits de dépistage, etc. Et donc, il y a un accent extrêmement fort mis par les autorités chinoises sur les pays en développement, que ce soit en Afrique ou dans d'autres régions. Cela a toujours été extrêmement explicitement mentionné dans les différents plans quinquennaux de la Chine, et notamment dans le plan China Healthy 2030, qui visait notamment à accroître les capacités évidemment en Chine, mais aussi à l'étranger. Et désormais, on le voit dans les discours chinois, on le voit désormais y compris sur le plan économique avec ce nouveau concept de double circulation. La priorité des autorités chinoises, c'est le marché domestique et les pays émergents. Et c'est également le cas sur les questions diplomatiques, puisque comme le disait Chun Yan Li, il y a une perception en Chine qu'il y a une dégradation des relations avec les pays développés, et notamment en Europe, aux États-Unis, en Australie, etc. Et que donc il faut se concentrer sur ces pays en développement, et ça, entre guillemets, sur la course au vaccin et la compétition pour le vaccin, c'est évidemment, entre guillemets, un terrain de compétition qui est extrêmement favorable à la Chine et qui peut permettre, in fine, et c'est une bonne chose, à ces pays d'obtenir le plus rapidement possible non seulement des équipements de protection, c'est déjà le cas, mais également des vaccins.
Chun Yan Li, vous avez travaillé sur réussir sur le marché chinois. Mm-hmm. Vous pourriez vous poser la question de réussir pour les Chinois sur les marchés étrangers maintenant, parce qu'effectivement, depuis le lancement des routes de la Chine, mais aussi depuis cette nouvelle stratégie réévaluée par le caractère sanitaire, c'est important.
Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités dans les deux sens. Même si les investissements chinois à l'étranger ont quand même baissé en fait sur ces deux trois dernières années, parce que l'économie chinoise a eu plus de pression aussi. Mais au moyen et long terme, ce sera une tendance qui continuera. Donc, je pense que c'est tout à fait une bonne chose. Après, ce que je constate depuis des années, c'est qu'il existe toujours pas mal de malentendus ou parfois des différences culturelles aussi, différentes façons de communiquer, de gérer des affaires, etc. Même à travers cette pandémie, moi j'ai pu constater depuis le début beaucoup de perceptions différentes. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionnent les autres. Et avant de faire toute conclusion, c'est de dire, je vais quand même pas faire un préjugé. Par exemple, par rapport à la Chine, il y a eu beaucoup de, bien sûr, il y a eu des zones d'amélioration, surtout dans la première phase, mais en même temps, dans la deuxième phase, est-ce que le monde occidental pourrait quand même se dire, peut-être qu'il y a quelques bonnes expériences desquelles je pourrais m'inspirer aussi, sans les mettre en œuvre comme ce qu'on fait en Chine, voilà.
Et on peut dire que c'est presque un slogan. Pékin cherche à se donner, Nadège Roland, l'image d'une puissance qui soigne et non plus d'un pays qui contamine, comme c'était le cas au tout début de cette crise, par exemple. En un an, ça a changé.
Oui, ça, les choses continuent d'évoluer. Et je pense que c'est important de prendre en compte cette évolution, cet esprit d'évolution.
Nadège Roland, sur ce point.
Excusez-moi.
Oui, tout à fait. C'est le revirement en fait que la Chine voudrait voir, et le déploiement de les promesses, par exemple, de distribution de vaccins aux pays en développement, les promesses, enfin toute la diplomatie sanitaire qu'Antoine Bondaz a évoqué tout à l'heure, qui a été faite en priorité vers ces pays en développement, les pays qui, entre parenthèses, font partie des routes de la soie. Donc il y a un double là aussi. un double message. Hein. Vous faites partie de cette expérience sino-centrée que sont les routes de la soie, et vous avez des bénéfices qui en découlent, pas seulement sur des investissements dans les infrastructures, mais aussi des priorités peut-être sur le déploiement de ces vaccins.
Merci Nadège Roland d'avoir été avec nous en direct depuis Princeton, où vous êtes chercheuse sur les questions politiques et sécurité en Asie-Pacifique. Merci à vous, Chun Yan Li, d'avoir été ici en studio. Vous êtes consultante indépendante sur les relations franco-chinoises et autrice de Réussir sur le marché chinois. C'est chez Erol. Vous l'avez publié en 2014. Et merci à vous de votre côté, Antoine Bondaz, spécialiste justement de cette zone Asie-Pacifique. On pourra lire aussi avec intérêt le livre de Christine Ockren qui s'appelle La guerre des récits, qui vient d'être publié aux éditions de l'Observatoire, justement sur ces questions de récits entre l'Europe, la Chine et les États-Unis autour de cette crise du coronavirus. C'était le temps du virus. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baye, Hugo Boursier et Iman Gilles à la réalisation, Asia Ralid. Et puis demain, dans le temps du débat, la crise sanitaire va-t-elle bouleverser le droit d'auteur, les droits des artistes, auteurs et interprètes? Ça sera le thème de notre émission.